commencé par un warning, un avertissement. C'est que depuis les années 90, surtout la crise somalienne et la dislocation de l'État somalien et d'autres crises en Afrique de l'Ouest, on a eu un nouveau concept en droit international de parler de failed state, un État en faillite. Les crises desquelles je vais prendre la parole et je vais parler, je me pose la question, est-ce que dorénavant on va pas commencer à parler de failed region, toute une région qui est en faillite. Mais pour faire une longue histoire très brève, je dirais les choses en commun entre les crises. Je prendrai surtout ma propre expérience en Irak. J'étais envoyé spécial, pas des Nations Unies, mais c'était beaucoup plus sous le chapitre 6 de la Ligue arabe, en Irak en 2006-2007, parce que j'ai démissionné. Et puis, bon, j'ai représenté les Nations Unies à Damas de 2012 à 2014. Et les deux se sont soldés par la démission, c'est en quelque chose des échecs. Je voudrais aussi ajouter un autre avertissement très, très, très important lorsqu'on travaille sur le terrain. Quand vous êtes médiateur entre des gens qui sont en train de s'entretuer, il y a une condition sine qua non pour le succès. La condition sine qua non, c'est que les gens qui sont en train de s'entretuer, ils doivent être fatigués. S'ils ne sont pas fatigués, vous ne pouvez rien faire. Et je me rappelle très bien. Merci. Je me rappelle très bien lors d'une mission conjointe que j'avais faite avec M. Brahim en Afghanistan en 1998, et lors d'une réunion avec le Mollah Omar. Et à l'époque, on voulait organiser une petite conférence de réconciliation nationale à Ashgabat. Et bon, parler, c'est regarder ce qui arrive à votre peuple, il faut que tout le monde soit présent et tout. Il dit, ah non, nous voulons une réconciliation nationale, mais après avoir eu tout le pays. Donc quand les gens ne sont pas vraiment fatigués, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc les deux crises, et aussi je voudrais dire un petit mot sur aussi le Daesh, l'État islamique, les deux crises et la Syrie et l'Irak, ils ont des choses en commun, ils ont aussi beaucoup de différences. Ils ont commencé des crises internes. Ces crises ont commencé sur un plan interne, donc il y avait des problèmes sur le plan interne dans chacun des deux pays, même avec la différence de l'invasion américaine en Irak, mais il y avait des problèmes sur les sanctions, sur beaucoup de choses, mais qui ont fini maintenant pour être traités à trois niveaux. Local, régional et international. Et avec des choses qui sont sur le plan de droit international étonnantes. Si je parle maintenant, je prends l'exemple de la Syrie, ce qui se passe en Syrie. On se rappelle pendant la guerre froide, pendant toutes les crises, les plus difficiles à traiter avec étaient les Soviétiques et les Américains. Les grandes superpuissances, parce que c'est un agenda international pour chacun. Mais les voisins d'une crise, ils ont toujours peur que cette crise vienne chez eux, donc ils étaient toujours plus disponibles à régler. Ce que j'ai vécu en Syrie, c'est tout à fait l'inverse. Les plus difficiles, c'est la région. Beaucoup plus ceux qui étaient en faveur d'un processus de paix, de Genève, ou ceux-ci qui ont essayé de pousser les choses, c'était les Russes et les Américains. Donc, ces deux crises se trouvent à trois niveaux, et les deux, ils ont en commun des caractéristiques très importantes lorsqu'on travaille sur le terrain. Première caractéristique qui rend aussi les choses extrêmement difficiles, c'est la fragmentation. C'est des sociétés trop fragmentées. La fragmentation a pris une dimension inimaginable. Juste pour vous citer des exemples parmi les plus choquants, quand j'étais à Damas, et je me déplaçais chaque samedi, donc chaque samedi j'allais voir des groupes armés voilà, à Aleppo, à Darapat, dans le pays pendant les 6 premiers mois, et on essayait d'avoir des datas sur les groupes armés, ce qu'ils appellent des brigades, mais bien sûr, la brigade en Syrie n'avait aucune définition militaire parce que ça peut être 5 personnes comme ça peut être 30 000 personnes. On avait compté plus de 2000 brigades. La même fragmentation se trouvait au niveau politique. Donc, juste les gens qui se réclament avoir un parti qui vont visiter dans le bureau, les partis, et je ne compte pas les 30 partis de la région kurde de la Syrie, juste ceux qui sont à Damas, c'était 157 partis. Mais bien sûr, tous les partis ont maximum 10 personnes. Mais bon, c'est une chose. La chose qui faisait plus peur dans cette fragmentation, c'est qu'ils commençaient à prendre une dimension sociale. Ce n'était pas seulement la politique sociale. J'entends par là J'avais dans mon personnel local des gens qui sont venus me voir. Moi, j'habite à Damas, dans Mazza, et c'est un quartier à prédominance alaouite. Est-ce que les Nations Unies pourraient m'aider parce que j'ai besoin de changer, parce que je ne me sens plus en sécurité. Moi, je suis sunnite, c'est une minorité. Et ça, c'était nouveau, ce qui montait en secteur. La deuxième caractéristique aussi qui était très importante à voir, c'est le degré très élevé de non-confiance entre les Syriens ou alors entre les Irakiens. Entre, il y a beaucoup de confiance, au point j'ai très souvent dit qu'ils ne font même pas la distinction entre le dialogue et la négociation. On a beau leur dire, écoutez, pour négocier, on comprend parfaitement, vous devez avoir un frame, savoir où vous allez, donc, mais le dialogue, juste parler à l'autre, l'écouter et tout ça, il n'est pas, ça n'arrive pas. Je conclurai pour ces trois niveaux et là, les deux caractéristiques parmi des choses qui m'ont fait le plus peur. J'étais ambassadeur à New York pendant plusieurs années, du temps de Baudrosale et aussi du temps de Copernic, et j'étais témoin que lorsque les deux génocides, celui de Rwanda, du temps de Baudrosale, et celui de Srebrenica, du temps de Copernic, tout le monde a été pris par surprise. Et le lendemain, le Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le génocide prend tout le monde par génocide, par surprise. Et ce que j'étais témoin en Syrie avec cette dimension sectaire qui prenait une dimension de plus en plus, c'est que j'ai dit au Conseil de sécurité des Nations Unies aussi, je ne serais pas choqué, c'est un génocide. Le pire des génocides arrive là parce que tous les ingrédients ils sont là juste quand est-ce que cette partie ou l'autre partie va trouver l'occasion pour faire le génocide, mais les ingrédients sont là. J'ajouterai un petit peu pour les complexités qui étaient sur le terrain. Quand je suis arrivé en Syrie, c'était en août 2012, et on a commencé à faire le premier rapport avec les contacts qu'on a eus. Mes prévisions, et un petit peu ce que j'avais informé New York, c'est que les gens qui ont pris des armes, pratiquement 80%, c'était des civils qui faisaient des manifestations, des jeunes qui voulaient une démocratie, le printemps arabe, plein de beauté, des gens idéalistes et tout, et que la façon de laquelle on les a traités, ils étaient obligés de prendre les armes. Et à eux, il y a beaucoup de gens qui commençaient à faire défection de l'armée, qui n'étaient pas minoritaires, mais une bonne minorité qui sont en train de les rejoindre, et ça fait cette dimension. Et ces gens-là représentaient 80% des gens armés. Le reste, on faisait. À l'époque, il n'y avait pas encore l'État islamique, c'était. La branche d'un taille, c'était déjà nous à la branche. Aux évaluations dans les régions où ils étaient, il devait être quelque chose entre 5% à 10% maximum. Le reste, c'était, comme on dit, des looters, c'était des bandits qui essayaient de profiter de l'occasion d'attaquer, de vendre des choses, de rançonner des gens, et ça prenait de plus en plus de dimension. Bien sûr, la situation a complètement changé. Et l'année dernière, juin 2014, quand j'avais démissionné, j'étais invité à Washington, c'était le même jour où on parlait à Washington quand l'État islamique avait pris Moussoul et puis les choses ont changé. Quelques mots juste pour clarifier les choses, parce que l'État islamique, c'est la même organisation qui se trouve en Syrie et en Irak, c'est Barzali. Au départ, ce sont eux qui ont envoyé Abu Mohammed Jolani pour. Il était avec eux, c'est un Syrien, pour créer en 2011, fin 2011, une branche d'Al-Qaïda en Syrie. Bon, lui, on pensait que Syrien, il y a une grande différence de mentalité que Ibn Khaldoun avait très bien expliqué. Il a créé ces petits groupes, mais il ne travaillait pas de la même façon qu'il travaillait en Irak. Il a préféré se concentrer contre le régime, contre l'armée, contre les institutions, et travailler avec tous les autres groupes ensemble, même plus lorsqu'il a commencé à occuper des villages. Au départ, il concentrait de faire de l'aide, de faire un petit peu la politique des frères musulmans en Égypte, de créer un petit dispensaire, d'aider les gens. C'est pour ça qu'ils sont devenus un petit peu populaires, ils travaillent avec tout le monde et ça fait beaucoup de confusions maintenant. Alors, les Irakiens de l'État islamique, étaient les mêmes groupes, lorsqu'ils sont venus en Syrie au départ, ils ont concentré sur les provinces de l'Est, les provinces de l'Est zone, et ils avaient deux objectifs, dans les provinces de l'Est et un petit peu le Nord. C'est d'occuper les champs pétrolifères, l'argent, et les checkpoints avec la Turquie, parce qu'il y a beaucoup de smuggling, il y a beaucoup de choses. Et là, ils ont commencé à avoir des problèmes avec les gens d'Al-Qaïda, de Syrie, de Mohamed Al-Joulani, et qui a demandé au grand patron d'Al-Qaïda, Ayman Tawari, de demander aux Irakiens de partir. Alors lui, il a dit, bon, vous faites un acte d'allégeance officielle, on va leur demander de faire une fatwa. Ça a été fait. Et les autres ont dit, Bagdad et la Islamie, ah non, on ne part pas, on reste ici. Et on va. Et ils ont commencé même à combattre tout le monde, le problème a commencé à prendre des dimensions. Et ça a coïncidé avec quelque chose qui a fait mal à tout le monde. C'est la dimension régionale de la crise et la présence de beaucoup de pays, d'un côté l'Iran, impliqué de plus en plus avec le régime, Hezbollah, quand même avec le Hezbollah, de l'autre côté, surtout la politique de l'Arabie Saoudite et du Qatar. C'est un poids financier gigantesque et des groupes, et quand un groupe ne veut pas faire quelque chose, donc on cherche quelqu'un qui le fait, c'est la séparation avec ce groupe, entre ce groupe, et puis au point, on ne sait pas. Pendant ce même moment, moi j'étais Brahim Inaba, lui il travaille sur le plan international, et il a commencé de façon très intelligente à concentrer, surtout sur le Russie et les Américains, pour faire le processus de Genève. Et je ne me cache pas une chose, c'est que lorsque les choses vont, ça a pris tellement de temps parce que les Américains ont trouvé tellement de difficultés à convaincre l'opposition, ce qu'ils appellent l'opposition. Moi, je me suis toujours opposé à rien en Syrie qui s'appelle l'opposition, si on peut être exact, on va dire les oppositions, parce que c'est très fragmenté. Et ensuite, le problème, quel est l'impact de toutes ces oppositions sur le groupe armé? Donc, quand je visitais, j'avais une liste des noms. Quand je donne les noms, s'ils sont là, on va les égorger. Donc, qui représente qui? C'était un grand problème. De l'autre côté, les Russes qui allaient faire des pressions sur le gouvernement pour être présent à Genève, une délégation qui, nommée par le président, ne pourra jamais discuter que le président ne sera pas parti du lendemain de la Syrie. Donc, il y avait tous ces problèmes. Le problème, moi, personnellement, qui me dérangeait le plus dans cette expérience des Nations Unies, qui était très malheureuse, c'est qu'à un certain moment, pour les Russes et les Américains, les deux, surtout deux personnes, d'un côté Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et Kelly, le secrétaire d'État, ils voulaient tellement avoir Genève en début de l'année. Okay. Ils voulaient tellement avoir Genève que Genève est devenue par la force des choses un objectif. Et là, c'est une erreur monumentale. Genève ne devrait jamais être un objectif parce que qu'est-ce qui arriverait par la suite? On a fait tellement de problèmes, Genève devrait être un moyen pour résoudre le problème, la représentation des gens. Donc, c'est une faille totale. Maintenant, on était loin que les choses de l'émission d'égalité ne font qu'empirer. Et ça a pris une autre dimension maintenant avec l'intervention militaire directe russe qui complique davantage. Il y a encore plein de choses, mais je crois avec le temps pour laisser la parole à un collègue, s'il y a d'autres points, on pourrait les développer à travers les questions. Je vous remercie.